Radio Canu, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow, but your fellows get played like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Canu au 102.2. On est le mercredi 24 juillet. Il est 19h05. Et c'est parti avec le Canu Info. On va commencer par une nouvelle sur le chômage. Il y a 14 900 chômeurs de plus au mois de juin.
Ensuite, on va passer en Grèce où la Grèce impose le dépistage obligatoire et le fichage des séropos.
Ensuite, en Égypte, la journée de vendredi risque d'être chaude.
Ensuite, on va parler de la mobilisation suite à l'assassinat de deux travailleuses du sexe.
Ensuite, on écoutera un reportage, le charme peu discret de la bourgeoisie.
Ensuite, on passera les frontières et on ira au Cameroun et on reviendra sur le meurtre d'un militant pour le droit des homos.
On enchaînera par un faut que ça se sache.
Et ensuite, on parlera un petit peu comme ça de l'Australie avec une révolte au centre de rétention.
Et on terminera avec les unes du progrès.
Et bah oui, 14 900 chômeurs de plus au mois de juin. Donc l'inversion de la courbe du chômage, là, celle dont les socialos parlent tout le temps, ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite. En mai, le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont vraiment aucune activité, s'était stabilisé. Il y avait eu dans tout le mois de mai seulement 100 demandeurs d'emploi en plus. Bon, c'était pas encore inversé, hein. Mais du coup, c'est reparti en nette hausse pour le mois de juin. Et selon les données fournies aujourd'hui par la division statistique du ministère du Travail, le mois dernier, c'est donc 14 900 personnes qui sont venues s'inscrire à Pôle emploi.
Ouais,
il y en a une dans les studios.
Je fais pas cela en plus.
Au cours des 12 derniers mois, le nombre de chômeurs a donc flambé de 11,2% et on en est aujourd'hui à 3 279 400 en France métropolitaine. C'est encore un record. Si on inclut les personnes qui ont effectué une activité réduite, les catégories B et C, on en est à 4 799 700. Donc ça, c'est les demandeurs d'emploi sur en France métropolitaine toujours. Et si jamais on inclut les DOM, on en est à 5 092 700. Mais si on y ajoute ceux qui sont en formation ou en contrat de sécurisation professionnelle, c'est-à-dire la catégorie D, ceux qui ont un contrat aidé, la catégorie E, et tous ceux qui disparaissent des statistiques officielles, ceux qui ont le RSA, les personnes dispensées, ou les personnes en temps partiel subi, ou celles qui juste sont complètement hors système, on en est déjà à ce moment-là à plus de 9 millions de chômeurs. Mais le ministère du Travail, quand même devant ce chiffre, lui veut voir dans cette... Alors attention, ouvrez les guillemets, hein, dans cette progression modérée du nombre de demandeurs d'emploi en juin, la confirmation d'une amélioration sur le front du chômage, même si elle ne traduit pas encore l'inversion durable de la courbe du chômage, qui est l'objectif des prochains mois. Mais effectivement, ça ne traduit pas encore. L'exécutif mise pour cela sur une batterie de mesures, donc des mesures bien sûr typiquement de gauche, socialiste, donc les contrats d'avenir, les contrats de génération, mais surtout la réforme du marché du travail qui a été votée au printemps. Vous savez, l'ANI, là, c'est cette espèce de réforme dont tous les syndicats sérieux ne voulaient pas du tout, enfin qui bousille un peu plus le marché du travail, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et puis les 20 milliards d'euros de baisse de charges accordées aux entreprises, c'est toujours en offrant de la thune aux riches qu'on crée de l'emploi. Donc camarades chômeurs, pas d'inquiétude, c'est toujours pas demain qu'on nous trouvera du boulot.
La Grèce impose le dépistage obligatoire et le fichage des séropos. Les premiers visés dans ce pays qui est, comme on le sait, durement touché par la crise, c'est les travailleurs du sexe, les migrants et les sans-abri. Et donc il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour dénoncer l'inefficacité de ces mesures. Et en fait, il y a un nouveau ministre grec de la Santé. Et il vient de prendre, apparemment ça fait un ou deux jours qu'il est là, et il vient de prendre des mesures assez controversées dans la lutte contre l'épidémie de sida. Fin juin, il y avait un décret 39, qu'ils appelaient 39A. C'était un décret sur la santé publique. Et il a été réintroduit, ce décret. Il avait été annulé il y a quelques temps. On en avait déjà parlé dans le Canu Info. Et ce décret, il impose la mise en place obligatoire de tests de dépistage de l'hépatite, du sida, et ainsi que d'autres infections sexuellement transmissibles. Et dans le programme de ce texte, il y avait aussi la détention et le traitement forcé pour les gens qui sont découverts atteints d'une de ces infections. Et en fait, bon, ce texte-là, il avait été annulé. Il y avait quand même beaucoup de gens qui s'étaient élevés contre en disant que c'était une connerie. Et en fait, il y avait quand même eu des abus parce que. En gros, la police, qui sait qui visait, parce que même si le texte n'était pas en place, ben, les flics, ça ne les empêchait pas de procéder à des arrestations et des choses comme ça. Et ils visaient principalement les personnes qui s'injectent de la drogue, les migrants sans papier, d'autant plus qu'ils venaient de pays où le VIH est endémique, donc on peut supposer une grande partie de la communauté africaine, les travailleuses du sexe et les personnes qui n'ont pas accès à des conditions d'hygiène minimales. Et donc là, pam, c'est les personnes sans abri qui ramassent. Donc il y avait pas mal de personnes qui avaient été arrêtées dans ce cadre-là.
Parce que le dépistage, quand tu parles de dépistage obligatoire, il est censé être obligatoire pour toute la population ou c'est juste une partie, du coup cette partie ciblée de la population ?
Non, c'est la partie ciblée de la population en fait, clairement dans le texte. C'est pas obligatoire pour tout le monde, c'est obligatoire pour ces catégories-là en fait. Et les flics, ils ont le droit de les arrêter pour, enfin, dans le texte, ils avaient le droit de les arrêter pour les soumettre à ça. Mais comme le texte, il avait été annulé parce que ça avait gueulé. En théorie, c'était pas faisable, mais sauf qu'en pratique, évidemment, tout est faisable. Et donc là, le ministre de la Santé, il réintroduit ce texte-là. Donc il y a l'association LGBT Homophonia qui a dénoncé la mesure et qui a adressé une lettre ouverte au ministère de la Santé. Où ils disent, il y a une petite citation, ils disent que la protection, elle n'est pas assurée par le châtiment des personnes séropo, mais par la mise en œuvre de programmes de lutte contre le sida, avec l'introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles, les campagnes, et etc. Enfin, qu'il y ait des campagnes de prévention, etc. Donc il y a aussi Médecins du Monde qui a réagi, et qui a dit qu'au lieu de s'attaquer aux vraies raisons qui sont à l'origine des maladies, des addictions et de la pauvreté, le ministre grec y commet une violation flagrante des droits de l'homme et de la dignité humaine sous prétexte de protéger la population des maladies contagieuses. Et c'est là un petit peu le problème, c'est que le VIH, en fait, c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas comme la tuberculose. Enfin, c'est une maladie qui est transmissible et c'est une maladie dont on peut se prémunir. C'est pas comme ben, la grippe, c'est contagieux, vous êtes dans le bus, c'est quelqu'un qui a la grippe, paf, quoi. Et du coup là il y a le et en fait c'est vraiment une erreur et c'est dangereux de traiter le VIH comme une maladie contagieuse, du genre on peut l'attraper sur les chiottes, on peut l'attraper en buvant dans le même verre ou en serrant la main. Enfin ça contribue vachement à alimenter des espèces de stéréotypes super pourris qu'on a sur la séropositivité. Et il y a l'assaut des droits humains Human Rights Watch qui a demandé au gouvernement d'annuler ce décret en disant que s'attaquer aux maladies infectieuses, ça nécessite d'investir dans les services de santé et pas d'appeler la police. Il y a un problème dans ce texte-là, c'est que les gens, en fait, ils peuvent être arrêtés et puis ils peuvent être obligés à se soumettre à un traitement. Et ça, c'est juste un truc fou, une atteinte folle aux droits des personnes. C'est-à-dire que le traitement, en théorie, il est fait pour le bénéfice individuel de la personne malade et il relève de son propre choix. Si on commence à mettre les gens sous traitement pour la santé publique, ben, y a des risques de déraper super fort. Alors certes, c'est un bénéfice secondaire. Quand les gens ils suivent un traitement, on sait aussi qu'ils sont moins contagieux. Donc c'est tant mieux. Mais c'est important que vraiment la décision de suivre ce traitement-là, elle vienne de la personne. Et sinon, c'est n'importe quoi. On enferme les gens, on les emprisonne et puis on leur fait gober de force des cachetons. Et du coup, ça fait jamais guérir personne. Et donc ce décret répressif, il intervient alors que la Grèce, elle s'enfonce toujours plus dans la crise. Et du coup, là encore, c'est les plus vulnérables qui sont les plus stigmatisés. Et en juin, il y avait eu des cas de détention arbitraire avec obligation de se soumettre à un test de dépistage et ça avait été signalé. Et c'était surtout les trans des villes d'Athènes et de Thessalonique qui avaient été touchées. Et la police en était vraiment pris à elles et les avait arrêtées. Une partie des trans qui étaient travailleuses du sexe, et ils les avaient arrêtées pour les soumettre à des tests comme ça. Et bon, voilà, juste pour terminer, quelques chiffres de l'ONU SIDA. L'ONU SIDA, c'est l'agence onusienne de lutte contre le sida. Et entre 2010 et 2011, le nombre de cas de séropositivité, il a plus que doublé en Grèce. c'est énorme en fait. Les gens, ils arrivent. De fait, on sait qu'il y a un gros problème de santé publique, mais et un gros problème d'accès au traitement, mais pas qu'au niveau du SIDA, mais aussi pour certains cancers. Mais l'augmentation, elle a été des contaminations, elle a été particulièrement forte chez les usagers de drogue. Et les usagers de drogue, ils représentaient en 2011 25% du total des cas recensés. C'est énorme. En France, c'est 1%. Des cas recensés dans les nouvelles contaminations, parce que la politique de réduction des risques, elle a bien marché et qu'il y a un accès à des seringues gratuites. Donc là, ça veut dire qu'en fait, ils ont sabré vraiment énormément sur les politiques de prévention et que voilà ce que ça donne. C'est juste que là, il y a vraiment des gens qui sont en train de crever, quoi.
Allez, on descend encore un peu plus au sud, on va en Égypte où l'armée appelle à manifester vendredi contre le terrorisme. C'est le chef de l'armée qui a appelé aujourd'hui les Égyptiens à descendre dans la rue vendredi pour lui manifester leur soutien pour en finir avec le terrorisme, c'est ce qu'il dit. Le camp pro-Morsi avait aussi de toute façon prévu des rassemblements vendredi contre ce qu'eux appellent le coup d'état du 3 juillet dernier, c'est-à-dire la déposition du président Morsi. Au Caire, les cortèges pro-Morsi doivent partir d'une trentaine de mosquées et des manifestations sont aussi prévues en province. Un des dirigeants des frères musulmans a rejeté les menaces, ce que lui appelle les menaces de l'armée, et assuré qu'elles ne dissuaderaient pas des millions de gens de continuer à manifester pour le rétablissement de Morsi. Le groupe Tamarod, vous vous souvenez, c'est le groupe qui était à l'initiative des énormes manifestations contre le président Morsi. Et qui en fait est un collectif d'orgas. Ce groupe a exprimé un soutien inconditionnel au chef de l'armée, qui est donc le général Abdel Fattah al-Sissi. Alors voilà, pendant un moment, on disait l'armée égyptienne, et il n'y avait pas vraiment un nom, en fait, c'était l'armée égyptienne, ou il n'y avait pas un nom qui ressortait. Cette fois-ci, c'est clair, c'est net, c'est ce général Abdel Fattah al-Sissi, c'est lui quand on dit l'armée égyptienne. Et donc Tamarod a appelé le peuple à se masser sur les places d'Égypte vendredi pour réclamer officiellement le jugement de Mohamed Morsi et soutenir les forces armées égyptiennes dans leur guerre à venir contre le terrorisme. Eh bien, tout ça ne sent pas très bon dans un contexte de tensions politiques exacerbées depuis un mois, là, et qui ont beaucoup déjà conduit à des violences meurtrières. Donc le général Sissi toujours. J'appelle tous les Égyptiens honnêtes à descendre dans la rue vendredi pour me donner mandat pour en finir avec la violence et le terrorisme. Ben, moi, je ne sais pas si ça va en finir avec la violence, là, vu le chemin que ça prend. Et il a réaffirmé n'avoir fait qu'accomplir la volonté du peuple au moment de la déposition de Morsi. Le nouveau pouvoir a assuré hier qu'il ne laisserait pas le pays basculer dans la guerre civile. L'Égypte ne sera pas une deuxième Syrie et quiconque pousse dans cette voie est un traître, c'est ce qu'a affirmé le porte-parole du président par intérim Adli Mansour. Alors que des violences policières ont à nouveau eu lieu, et en particulier dans la nuit dernière, là, il y a un flic qui a été tué, il y a 28 autres personnes qui ont été blessées par un engin explosif devant le commissariat central de Mansoura, dans le delta du Nil. Alors les frères musulmans ont dit qu'eux, ils condamnaient ce type d'attentat-là, mais a priori, ça vient quand même plutôt de leur côté. L'attaque n'a pas été revendiquée. Et dans tous les cas, elle survient dans un contexte d'affrontements qui ont fait quelque chose comme 170 morts depuis la déposition de Morsi.
Alors ça, c'est une nouvelle qui est un petit peu... c'est pas une nouvelle parce qu'elle est un petit peu vieille de la semaine dernière, mais ça paraissait suffisamment important pour qu'on relaye... à Scanu Info, ce qui s'est passé. Il y a deux travailleuses du sexe qui ont été assassinées la semaine dernière. Donc, Jasmine, qui a été tuée par le père de ses enfants le 12 juillet, et Dora, qui a été assassinée à son domicile par un agresseur le 9 juillet. Jasmine, c'était une travailleuse du sexe suédoise. Elle était membre du bureau de Rose Alliance. Dora, c'était une femme trans qui vivait en Turquie, où les assassinats de trans sont parmi les plus nombreux au monde. Et en fait, si les circonstances de ces deux assassinats, elles sont différentes, ils sont cependant le fruit d'une stigmatisation commune ou d'une même putophobie, et qui s'articule avec, pour le cas de Dora, avec de la transphobie. Jasmine, la travailleuse du sexe suédoise, elle se battait depuis des années pour récupérer la garde de ses enfants. Il lui avait été enlevé parce qu'en Suède, on ne laisse pas des enfants à une femme comme Jasmine, une femme qui vend des services sexuels. Et en Suède, on préfère laisser la garde des enfants à un père dont la violence avec la mère de ses enfants a été signalée plusieurs fois aux forces de l'ordre. Il avait en effet reproché à Dora par les services sociaux de défendre la prostitution et de ne pas savoir ce qui était bon pour elle. Et là, il y a une erreur dans mon truc, mais en fait, pour reprendre les mots de sa mère, qui n'est pas la mère de Jasmine, la mère de Dora, nous savons qui a tenu le couteau, mais aussi bien qui lui a mis dans les mains. Si le premier responsable de la mort de Dora, c'est bien son assassin, on sait aussi comment les politiques discriminatoires à l'égard des travailleuses du sexe et des trans sont responsables de la mort de Dora, donc la travailleuse du sexe qui a été tuée en Turquie, et combien ces politiques discriminatoires, elles ont encouragé ce type d'assassinat. Du coup, il y a eu vendredi 19 juillet à Paris et dans plein de pays dans le monde des rassemblements organisés par des assos de travailleuses du sexe, par des activistes, des assos de lutte contre le sida et des militants pour les droits humains. Il y a eu des rassemblements devant les ambassades de Suède et de Turquie pour dénoncer les complicités de l'État qui ont conduit aux assassinats de Dora et Jasmine. Il y a eu des actions dans 36 villes tout autour du monde et ça a été un petit peu tout ça coordonné par le réseau international des travailleuses et travailleurs du sexe. Full sunrise by sending my virtue full. What have you made if you gain the whole world? But sell your own soul for the price of a pearl. The world is my oyster, and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. I've told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, which to your class is be telling.
Bon, et ben maintenant, on va faire ce qu'on fait une fois de temps en temps quand on manque d'infos pour remplir une pleine heure. C'est qu'on est allé se balader sur Arte Radio et on est allé choper un petit son qui nous plaît bien. En l'occurrence, c'est un reportage de Pascal Pascariello qui s'appelle « Le charme peu discret de la bourgeoisie ».
J'avais une phrase d'un aïeul, un ancêtre, qui disait « Je ne veux pas que mes enfants... » et de soucis d'argent jusqu'à la 7e génération. Créer une dynastie et venir en aide à ses enfants pendant très longtemps, c'est aussi un but dans la vie d'un être humain.
Elle est là.
Oui.
Elle est arrivée. Entrez.
J'arrive.
Elle
arrive.
Voilà.
Je le dis tout de suite, je ne suis pas de gauche. Je suis Anne-Marie Mitterrand, j'habite donc Bruxelles et l'Italie, mais je viens en France régulièrement pour m'occuper de mes enfants et de mes petits-enfants maintenant parce que j'en ai énormément. François Mitterrand est donc l'oncle de mon mari, donc je suis une nièce rapportée. Alors je le dis carrément, je suis une bourgeoise. Je pense que j'ai toutes les valeurs, l'éducation, et que ça, malheureusement, ça vous colle à la peau. On s'en sort pas. Quand on a été élevé de cette manière-là, on ne peut pas changer de milieu. Maintenant, j'aime la fantaisie, j'aime la rigolade, j'aime dire des gros mots. Je pourrais dire, et mon cul. Vous avez les pigeons ? Je déteste les vacances dans des endroits très luxueux. J'aime pas l'air, j'aime pas les bateaux, donc je suis pas sportive. Je suis une athélo quand même. J'aime mieux vivre tranquillement avec mes bouquins. Ce que j'aime, c'est les bouquins et lire, écrire et bouffer quand j'ai faim. Moi, j'ai vécu dans la hantise du grand soir. Le grand soir étant la fin de la bourgeoisie. Ça, on leur coupait tous la tête et puis c'était fini, on les voyait plus. Papa, il était resté branché le Front Populaire, quoi. Il était sûr que ça allait recommencer. On va nous zigouiller, on va nous couper le cou à tous et puis des bourgeois, il n'y en aura plus. Voilà, c'est fini, donc vous avez intérêt à travailler. Donc il nous a toujours, pas les filles, parce que les filles ne travaillaient pas, elles étaient faites pour faire des enfants, donc nous, on était bonnes, vous serez une bonne mère, ça vous suffira. Donc il était comme les Arabes, là, il fallait s'occuper de ses enfants. Bon, maintenant, on continue avec les vieux trucs du Front Populaire. Enfin, les gens, ils sont en congé tout le temps. Et ils ont leurs 5 semaines, ils ont leur pause café, la pause cigarette. Et ils ont les congés maladie, maternité. Maintenant, même le papa, il s'arrête pendant un mois pour s'occuper de son enfant. Enfin, bon. Donc, je pense que le socialisme a détruit l'esprit du travail. C'est l'esprit du loisir, des vacances, alors qu'avant, le travail était quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, le travail, non. C'est, chez les socialistes, c'est, ben non, vous avez droit au loisir, vous avez droit au logement gratuit, vous avez droit à tout. Mais non, pour acquérir quelque chose dans une vie, il faut se battre. Mais je vais me laver les dents. François Mitterrand, 14 ans, quand il est rentré, il y avait plein d'argent en France, quand il est reparti, il n'y en avait plus. Mais après Mitterrand, c'est fini.
La base virale VPS a été mise à jour.
Après Mitterrand, c'est fini. Il n'y aura plus jamais ça. Tout le monde aura compris, le socialisme, c'est fini. Et là, qu'est-ce que je vois? Que pas du tout, c'était pas du tout fini. Au contraire, il y a eu Jospin. Et là, j'ai dit, non, on ne va pas recommencer. Et là, je sais que je suis partie le dimanche soir vers nulle part, en voiture. Mon mari m'a dit, où vas-tu? J'ai dit, je m'en vais, je ne reste pas dans un pays qui veut continuer à me donner des coups de pied derrière. Voilà. Je suis tombée en Belgique et je me rappelle que... je suis arrivée tard le soir, quoi. 2 heures. Et que je ne connaissais pas. Et je me suis installée à l'hôtel. Et là, c'était la première fois, pensée. C'était la première fois que je quittais mon boulot de mère de famille. Toute seule, à l'hôtel, petit déjeuner au lit. Ça ne peut jamais arriver. Moi, j'ai accompagné mes enfants toute ma vie à 7h30 le matin. Et là, je me suis dit, mon Dieu, non seulement il y a le socialisme qui arrive en France, mais en plus, c'est tout à mon avantage de pouvoir me reposer un petit peu. J'ai jamais travaillé de... J'ai fait de la littérature, j'ai quand même écrit 10 livres, qui n'ont pas été édités. J'ai élevé mes enfants et j'ai fait beaucoup d'immobilier. Mon père n'était pas du tout un industriel, mon père était d'une famille d'industriels. Et il ne travaillait pas énormément, mais... D'ailleurs, il nous a donné l'idée du travail parce qu'il disait que c'était très long les journées quand on ne travaillait pas. Tiens, le voilà, mon mariage. Il est avec mes enfants, il est avec mon petit-fils, il est partout. Mon père, il est partout. J'ai un amour, ça m'a un peu bloqué dans ma vie, c'est pour ça que je n'ai pas fait un très bon couple, sans doute. Parce que j'avais... c'est vrai que... Est-ce qu'on peut faire un bon couple quand on a beaucoup de liens avec un autre homme? Bon, moi j'avais tous les liens avec mon père, sauf l'essentiel, c'est-à-dire on n'était pas, il n'y avait absolument rien d'incestueux, mais tout le reste marchait tellement bien que c'est difficile après de faire un couple avec quelqu'un d'autre, parce que le couple, je l'avais quand même avec lui. Bon, c'est la femme, elle a du caractère aujourd'hui, hein. C'est plus la femme soumise d'il y a... même d'il y a 50 ans, hein. C'est mai 68 qui a tout changé. La liberté sexuelle, mais elles y ont perdu, à mon avis. Oh, ben moi, je trouve ça très agréable, l'autorité masculine, au moins. Les hommes, ils trompaient leur femme comme ils la trompent toujours, mais ils se tiraient pas avec... ils avaient quand même des... la pauvre à la maison, c'était leur femme, ils avaient quand même le respect un petit peu plus qu'aujourd'hui. De cette femme qui n'était pas le meilleur coup du monde, qu'ils n'aimaient plus beaucoup physiquement, mais c'était leur femme. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je pense que les hommes, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont fait la cour quand mon père est mort. Oh, ça a été formidable, il y en avait plein qui n'avaient pas de toit, ni de résidence secondaire. Alors là, j'ai eu un succès, ça a été génial. Bon, c'est vrai que je suis jolie femme, c'est vrai que je suis agréable, c'est vrai que j'ai de la vie, c'est vrai que j'ai du caractère, de la volonté, tout ce qu'on veut. Mais quand même, il y avait quand même que je me sens toujours un peu désirée pour autre chose que juste mes qualités morales. Donc je fais attention. Voilà. Et ça, la méfiance, c'est un truc de bourgeois. On vous apprend à être méfiant dès le début. Mais on n'est pas toujours. Tu sais que les femmes, par exemple, on leur dit qu'elles sont belles, dès qu'elles ont hérité et elles se croient belles. Allô, chérie. Oui, je suis en interview, là. On se rappelle tout à l'heure, d'accord? Au revoir, chérie. Vous savez, l'argent, c'est, ça apporte pas beaucoup d'amusement. C'est pas amusant. On s'en fout. Voilà. L'argent, c'est pas un sujet de conversation. C'est un domaine essentiel. C'est très important. Il faut le gagner, ne pas le perdre. C'est encore plus dur que de le gagner. Mais en parler tout le temps et le montrer, ça sert à rien. Les bourgeois sont radins, hein. On a vraiment, c'est presque un travail de faire des économies comme ça. Hein. On est éduqué dans l'idée que cette espèce d'atmosphère où un sou est un sou. Vous savez, quand vous avez un immeuble, il y a beaucoup de travail d'intendance et pour faire des locations et pour gérer les papiers et pour c'est comme un boulot. Quand vous avez des gens qui travaillent pas, ils reçoivent des allocations, ils reçoivent, les enfants vont à l'école, c'est gratuit en France, ils reçoivent quand même de l'argent, ils sont soignés. Moi, je connais beaucoup de gens qui reçoivent quand même. Dans les milieux où on gagne, par exemple, 1 500 € par mois, vous êtes femme de ménage ou gens comme ça, ils reçoivent. Hein. Je veux dire, les gens, quand même, on essaye de faire attention qu'ils reçoivent de l'argent quand ils en ont pas assez. Et ceux-là payent pas d'impôts du tout. Là, c'est un peu gros, quand même. Oh. Allô, mon Hubert, tu m'as appelé tout à l'heure ? D'accord. 2h15, 2h, d'accord. Bon. Oui, ça va. D'accord. À tout à l'heure. Quand on commence à parler de ce qu'on a, je veux dire, les gens vous attaquent, mais méchamment. Donc, je veux dire, arrêtons de vouloir absolument qu'on montre tout ce qu'on a pour que finalement, la seule chose que ça donne, c'est qu'après, on vous l'enlève. Et qu'on vous en veuille. Je veux dire, cette France où il y a une telle séparation entre l'envie et l'avoir, et l'avoir des gens, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Attends, je ferme ma porte. Sans ça. C'est les gens, là, il y a une telle rage que. Non, j'y peux rien si mon père m'a fait de l'argent.
Arte.
J'y peux rien, je suis bien contente. Mais on a peur.
Radio.
Bon, on est... Anne-Marie, merci encore. Allez. Se rappelle quand vous rentrez de voyage.
D'accord. À bientôt. Au revoir.
Point. Comme.
Et ben voilà, c'est toujours bien à entendre.
Alors. Je ne sais pas si vous allez vous en remettre, mais nous, on est bien obligés de s'en remettre parce qu'on est obligés de continuer avec les infos qu'on a envie de vous faire entendre. Donc là, ça va être une petite rupture de style parce que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. On va relayer on relaye via Acte de Paris un communiqué de presse des militants camerounais pour les droits des homos. Il y a eu l'un d'entre eux qui a été assassiné. Il s'appelait Eric Oena Lembembe. Son corps a été découvert atrocement mutilé le 15 juillet 2013 dans sa chambre, dans le quartier Togolo de Yaoundé. Donc a été découvert par ses collègues et ses amis qui étaient inquiets de sa disparition depuis 2 jours. Il avait été vu pour la dernière fois le 12 juillet en soirée, accompagné de 3 personnes. La police et les sapeurs-pompiers ont été alertés par la famille du défunt. Ils ont forcé la porte d'entrée et ils ont extrait les restes. Ils les ont transportés à la morgue de l'hôpital. Ce crime, il intervient dans un cadre général d'homophobie marqué par le silence complice des autorités camerounaises devant de nombreux incidents ciblant les individus et les organisations qui défendent les droits des minorités sexuelles. Les autorités religieuses, l'église catholique camerounaise en particulier, prennent position sur l'homosexualité de manière à inciter la violence. Une association de jeunes de la place s'est donnée pour mission de, entre guillemets, faire la peau au PD par l'organisation de tracts à l'occasion d'une journée déclarée de lutte contre l'homosexualité. Certains médias font volontiers l'écho de ce discours homophobe qui entretient l'ignorance et la haine au sein de la population camerounaise. Pourtant, le programme national de lutte contre le sida prévoit des actions en direction des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes et reconnaissant ainsi leur existence et leur droit à la santé et à la vie. Donc les associations signataires, il y en a toute une petite palanquée, elles condamnent fermement l'assassinat crapuleux et barbare du journaliste camerounais et défenseur des droits de l'homme Eric Lembembe Ouena. Et elles ont fait toute une liste de revendications qui s'adressent au président de la République, au Parlement du Cameroun, au procureur de la République, au ministère de la Justice du Cameroun, à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, au Comité national de lutte contre le sida, au ministère de la Santé, aux autorités religieuses et aux médias. Sans vous faire le détail de toutes ces revendications, ils demandent en gros qu'il y ait des lois qui soient faites pour reconnaître que l'homosexualité c'est pas un problème, qu'il y ait des lois qui soient faites contre l'incitation à la haine des personnes qui ont une orientation sexuelle qui est pas hétéro. Ils demandent aussi aux médias aux autorités religieuses et aux médias de changer de discours et de se positionner. Et donc voilà, ils sont plus que jamais déterminés à continuer de promouvoir et de protéger les droits de tous les citoyens camerounais, sans distinction aucune de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'origine, d'appartenance religieuse, d'opinion ou de toute autre condition. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site d'ACT UP Paris.
Chut, écoutez,
à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Alors on va faire un tour du côté de Mélia. Et ben comme à son habitude là, les gens en ont marre d'attendre de pouvoir passer. Alors ils décident de s'organiser collectivement et d'attaquer, comme on l'a dit plusieurs fois sur cette antenne. Cette fois-ci, ça s'est passé le 10 juillet. Il y avait environ une centaine de migrants. Au total, 40 ont réussi à traverser. Les autres se sont fait rattraper, pour certains d'entre eux, se sont fait rattraper dans l'aéroport de Mélia. Quand même 40 sur 100 par rapport aux autres, ça fait quand même une bonne réussite. Comment ?
Un bon taux de réussite.
C'est ça, même si on sait que les 60 autres personnes quand même ont bien mangé derrière. En réponse à ça, la police espagnole et marocaine organise des raids réguliers proches de la frontière. Avec ces raids, ils sont appuyés par un hélicoptère qui survole de près la zone. Avec ça, s'accompagne des arrestations massives et des refoulements vers la ville d'Oujda. Pour rappel des faits, le 3 juillet, il y a eu 15 migrants-migrantes qui ont été blessés pendant un affrontement avec la police.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Ensuite, on va aller à Annaba, en Algérie. Le 7 juillet, les gardes-côtes ont arrêté plusieurs embarcations qui prenaient la mer comme direction l'Europe. Une des embarcations a refusé de répondre aux gardes-côtes qui leur demandaient de s'arrêter et de les rejoindre. Donc face à ce refus, les gardes-côtes sont mis à leur tirer dessus, tuant une personne d'une balle en plein cœur. Les cinq autres personnes restant sur le bateau ont décidé de foncer sur les flics et de leur tirer dessus, œil pour œil, dent pour dent. Un flic sera tué. Les migrants blessés seront conduits à l'hosto, puis ont été conduits en garde à vue. Ils devraient être jugés sans trop tarder en Algérie.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Révolte au centre de rétention pour migrants sur l'île de Nauru. Ça s'est passé le vendredi 19 juillet 2013 dans la soirée. L'île de Nauru, c'est une île en Australie où il y a une prison pour migrants. Plusieurs bâtiments de la prison ont été incendiés et près de la moitié des demandeurs d'asile de la prison, il y a à peu près 500 personnes qui sont enfermées. Donc il y a plus de la moitié d'entre eux qui se sont échappés du centre. Et apparemment, il y aurait 95% des bâtiments de la prison qui sont partis en fumée, dont le toit qui s'est effondré. Et la rage des migrants, elle s'est ensuite étendue au reste de l'île de Nauru et le feu a été étendu aux biens publics. Et suite à un appel des autorités de l'île à aider les forces répressives, il y a quand même des citoyens flics qui ont prêté main forte aux flics et à la société privée de sécurité Wilson pour réprimer les migrants. Bonne ambiance. Apparemment, il y aurait 15 matons qui auraient été blessés et 60 migrants qui auraient été arrêtés. À l'automne dernier, fin septembre, début octobre 2012, il y avait des migrants qui s'étaient révoltés et des citoyens qui s'étaient prononcés pour la réouverture des deux camps pour sans-papiers de Manus et Nauru. Manus, c'est une autre île. Et en fait, cette révolte-là qui vient de se passer en fin de semaine dernière, elle intervient alors qu'il y a plusieurs migrants qui ont été récemment emprisonnés suite à la révolte incendiaire du centre de Villawood, qui est dans la banlieue de Sydney, et ça s'est passé en 2011. Et voilà, il y a eu récemment des peines de prison qui ont été prononcées contre les migrants qui avaient été impliqués dans cette révolte-là. Et voilà, en tout cas, ils ont l'air de ne pas vouloir se laisser faire et de continuer à se battre. Et donc, on ne peut que bien penser à eux et bien soutenir ce combat-là.
Alors, une dernière petite brève pour ce faut que ça se sache. On prend l'avion comme ça et on part aux États-Unis et plus précisément en Californie où plusieurs militants militantes ont déployé une banderole sur le toit de la PAF del Centro en Californie en solidarité avec aux sans-papiers. Et la banderole disait, attention à mon accent, Freedom for all, with or without papers. Alors, traduction quand même. Liberté pour toutes et tous, avec ou sans papier. Ça fait toujours plaisir quand des gens ils font ça, parce que quand même, se foutre sur le toit d'un commissariat, c'est un peu courageux. Comme vous l'avez remarqué, c'est l'été et dans ce qu'il y a eu info, on dit plein d'infos super intéressantes tout ça, mais c'est quand même loin d'être le cas de tous les médias français et notamment de notre super média local qui s'appelle Le Progrès, qui quand même depuis quelques jours, autant dire depuis que le Tour de France est fini, n'a plus rien à se mettre sous la dent à part la météo, qui avait quand même en une lundi, face à la chaleur, l'ombre et l'eau, plébiscité. T'as quand même, on est content de lire de Progrès pour pouvoir profiter de leurs conseils. Le lendemain, pareil, paf, ils ont de la chance, il pleut, du coup, ils sont pas obligés de retitrer pareil, et ils mettent « Passer l'orage, il va faire très chaud en fin de semaine », on est content. Il suffit d'écouter Radio Canu et sa météo pour
le savoir. Le journal de France Météo.
C'est exactement ça. Et quand même, là, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce qu'à part redire « après l'orage, il va faire chaud, aujourd'hui il fait chaud, profitez de l'eau », tout ça. Ils titrent OL Real de Madrid à guichet fermé. À part dire aux gens qu'il n'y a plus de place, ça sert à rien. Et le métro c'est qui à l'arrêt. Pas grand chose d'intéressant, mais quand même, on peut passer directement en ce moment à la dernière page du Progrès pour passer à ce qui nous intéresse pendant l'été, c'est-à-dire la météo. Alors la météo, pour une fois je vais vous parler de la météo d'aujourd'hui, parce que attention, ce soir, de forts risques d'orage sont à prévoir. Jeudi, ne vous inquiétez pas, il va faire beau. Alors bon, on nous parle de canicule, bon, c'est quand même pas non plus, on va pas se plaindre avec le mois de juin qu'on a eu. Jeudi, grand soleil, le matin il fera 26 degrés, l'après-midi on aura un bon 32 degrés. Vendredi, ne partez pas à midi sur la route pour partir en vacances, que bon, déjà le matin on va se taper 29 degrés et l'après-midi 35, et toutes les températures que je donne, hein, bien sûr, sont des températures à l'ombre, c'est-à-dire qu'au soleil,
et puis en plus sur la route là, ça va commencer le grand chassé croisé des juilletistes et des aoussiens, non?
Tac tac, on est le combien?
Oui, c'est
non.
Ça, c'est le 29 ou un truc comme, ouais. Ça là.
Alors attention, hein, c'est en plus sous les bouchons, comme ça vous allez défoncer vos voitures, elles vont surchauffer et tout, puis vous risquez de mourir comme ça, asphyxié dans vos voitures. Bref, ça c'est les bonnes nouvelles de départ en vacances. Mais attention, pensez à prendre une bouteille d'eau, hein, quand même dans votre voiture, on sait jamais.
La radio qui fait les petites annonces du ministère de la Santé.
Moi je dis le progrès, attention.
Mais coupez les micros s'il vous plaît.
Non mais prenez une bouteille d'eau, parce que franchement sur l'autoroute il vous la facture 1,50€. Samedi, grand beau pareil, 30 degrés le matin, là, quand même, ça commence à être chiant. 30 degrés le matin, 36 l'après-midi, autant dire que si vous partez pas en vacances, c'est que vous avez la chance de pas travailler le samedi. Restez chez vous, les volets fermés comme ça, et buvez plein de pastis ou du Ricard ou ce que vous voulez. Dimanche, grand beau, pareil, hop, 23 degrés, c'est bien, ça se rafraîchit un peu. 31 l'après-midi, pourquoi ça se rafraîchit? Parce que le lundi, 20 degrés le matin et 29 l'après-midi, mais pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'orages. Mardi, c'est reparti, grand beau, 18 le matin, 31 l'après-midi, et on s'arrêtera là pour la météo de la semaine, mais quand même, une petite dédicace. On souhaite un peu la bienvenue à ma nouvelle collègue qui s'appelle Elodie Calac, qui est la remplaçante de Jacques Kessler. Jacques Kessler qui nous quitte sur Radio France.
Jacques Kessler, quoi, il est mort?
Non, il prend sa retraite quand même. On sait que l'âge de la retraite quand même recule, mais je pense que lui quand même il a les moyens de partir, enfin d'arrêter de travailler avant de mourir.
À 83 ans.
Du coup, à 83 ans il a?
Non, je suis pas tout à fait sûr.
À 83 ans, ouais, c'est ça, on va dire. Donc voilà, bienvenue à Elodie de nous rejoindre sur la grande famille de la météo.
Écoutez, c'est moi le quart, mais on va quand même s'arrêter. Ah non, quand même encore une toute petite dédicace à cette auditrice qui se plaignait par mail tout à l'heure de ne pas avoir d'infos pendant l'été. Et ben voilà, nous, bravement, on était là, on a tenu le cap. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté qui est en train de s'apprêter à faire un canu info vendredi.
Et on peut rajouter que si vous avez toujours des petites micro-coupures, c'est toujours à cause de ces salauds de TDF, non?
Du tout. Alors, des nouvelles des micro-coupures. Donc, résumé des épisodes précédents, depuis novembre, les auditeurs les plus fidèles de Radio Canu ont pu constater qu'à certains moments, en tout cas les auditeurs qui écoutent sur la FM, hein, pas les auditeurs qui nous écoutent du Brésil sur Internet. On a aussi reçu un mail d'un auditeur qui nous écoute du Brésil sur Internet et qui est tellement ravi. Mais donc, lui n'a pas eu de coupure, mais par contre les auditeurs qui écoutent sur la FM ont eu des petites coupures qui pouvaient aller de 1 minute à 4 heures. 4 heures, ça s'est passé que pendant la nuit, mais en tout cas il y a eu des coupures relativement longues. Il y a eu des semaines où il y en avait énormément, des semaines où il y en avait très peu. Ça, depuis novembre, c'était généralement de la faute de notre diffuseur, c'est-à-dire l'entreprise qui récupère le son dans la radio, qui l'amène par des détours où ça passe par la banlieue parisienne, tout ça par des fils internet, qui revient à Fourvière et qui le balance sur les ondes à partir de la tour de Fourvière. Donc eux, ils ont des merdouilles techniques qu'ils n'arrivent pas du tout à gérer. Et donc ça a duré des mois et des mois et des mois où on avait ces coupures. Là, on a appris récemment plusieurs choses. On a appris, d'une part, qu'on n'était pas la seule radio à avoir ça, que Radio Salam a eu ces coupures aussi. Radio Salam, c'est entre autres la radio qui passe l'appel à la prière pour la fin du jeûne du Ramadan tous les jours, donc l'heure où les gens peuvent s'arrêter de manger, et ils ont une coupure à ce moment-là. Autant dire qu'ils étaient verts de rage. Donc, moralité, Canu n'est pas la seule, d'une part, et d'autre part, Dieu ne protège pas des micro-coupures. Et par contre, ce qui s'est passé après, c'est qu'ils ont mis en place une solution que, ma foi, nous leur avons suggérée, qui est un petit système qui fait que, en cas de silence, ils basculent immédiatement pour récupérer le signal du streaming, c'est-à-dire ce que vous pouvez écouter en direct sur Internet. Et ça, visiblement, ça marche. Là, on a déjà eu des cas. Et donc, en quelque chose comme moins d'une seconde, les micro-coupures ne peuvent plus trop durer plus d'une seconde, puisque le signal est immédiatement récupéré sur Internet et on bascule de système. Quoi. Le son est de moins bonne qualité dans ces cas-là.
Et du coup, là, quand même, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'une société qui est payée quand même des dizaines de milliers d'euros par radio n'a pas trouvé la solution. Et la solution vient d'une radio autogérée telle que Radio Canu. C'est beau quand même. Ouais. On peut avoir un pourcentage quand même, parce que même si on est autogéré, on veut bien du fric.
Ouais. Et ben ouais, peut-être qu'il va falloir négocier avec eux. Bon, allez, on arrête de dire des conneries.
On vous laisse avec les bandes continues, parce qu'il y a peu de chances que vous ayez des noirs, a priori.
Ouais. Ils sont pas encore là, ce qui est mauvais signe pour avoir une émission anarchiste. Eh bien, tant pis, les bandes continues de La Plus Rebelle des Radios, 102.2, toutes ces choses-là. Bonsoir.
Ciao,
bonne
ciao.
Soirée.
Ta femme elle s'ennuie, tu peux pas tester, toujours ghetto. Tu peux pas faire peur à mes blancs, mes peurs et mes négros. On n'est pas là pour faire faire ta campagne. T'as pas compris qu'ici y'a toute une famille qui est en larmes. T'es mort, y'en a eu hélas, encore à qui la depuis hier dans les packs. On n'est pas là, toujours ghetto, le street c'est des alibi Montana. Tant, 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 pas.